VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale. RCA, les handicapés sont particulièrement vulnérables et en première ligne des violences en Centrafrique. C'est ce que dénonce l'ONG de défense des droits humains, Human Rights Watch, dans un rapport publié ce mercredi qui préconise une meilleure prise en charge de ce groupe marginalisé. L'ONG basée à New York exhorte le gouvernement centrafricain et les divers organes de l'ONU en RCA à une meilleure prise en charge des handicapés dans le pays. Elle exprime aussi l'espoir que l'accord de paix de Sant'Egidio, conclu et signé lundi à Rome par les autorités de Bangui et 13 groupes armés centrafricains, offrira une occasion d'aider ce groupe particulièrement maltraité. Au terme de l'accord, au lendemain de cet accord, au moins 40 personnes ont été tuées mardi à Bria, dans le centre-est du pays, dans des combats entre groupes armés impliquant un signataire de Sant'Egidio, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC, un des principaux groupes armés de l'ex-coalition musulmane, Séléka. En Guinée équatoriale, le gouvernement qualifie la mort d'un homme abattu samedi en pleine rue par un militaire de cas isolé. La présence policière et militaire s'est nettement accrue dans le pays depuis un mois. Orzuma Compaoré.
Le ministère équato-guinéen de la Défense a exprimé ses condoléances à la famille de la victime, ajoutant que c'est un cas isolé. L'homme a été abattu samedi sans raison apparente dans les rues de Malabo, alors qu'il était au volant de sa voiture. Le militaire a plaidé la malchance à la télévision nationale. Depuis une grève des taxis le mois dernier, la présence militaire et policière s'est renforcée à Malabo et à Bata. Les soldats fouillent régulièrement les voitures et leurs occupants. Le ministre de l'Intérieur avait interdit la circulation des taxis et refusé tout dialogue avec leurs chauffeurs, qu'il qualifie de délinquants et criminels. La grève des taxis est l'une des premières dans ce pays dirigée d'une main de fer par le président Théodore Obiang depuis août 1979. Le procès de son fils et vice-président Théodore Obiang s'est ouvert lundi en France dans un procès dit des biens mal acquis.
La lutte contre Boko Haram maintenant, l'ONU s'est inquiétée aujourd'hui du retour de réfugiés depuis le Cameroun vers le nord-est du Nigeria et particulièrement à Bangui, région dévastée par l'insurrection du groupe djihadiste et où l'accès aux services essentiels est limité. Le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, dans une déclaration écrite, estime que la région est mal préparée pour les recevoir. L'armée nigériane a repris la ville de Bangui en septembre 2015 après des combats acharnés avec les militants djihadistes nigériens de Boko Haram, dont l'insurrection a fait au moins 20 000 morts depuis 2009. À New York, un vote est prévu ce mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU sur un projet de résolution qui doit ouvrir la voie au déploiement d'une force africaine pour combattre les djihadistes dans la région du Sahel. Plus de détails avec Yakuba Ouédraogo.
Le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso ont accepté de constituer une force de 5000 hommes pour combattre le terrorisme, le trafic de drogue et le trafic de personnes dans la région du Sahel. Un premier projet de résolution présenté par la France voulait que le Conseil de sécurité donne son feu vert. Les États-Unis étaient opposés, mais le nouveau projet salue le déploiement de la force du G5 Sahel pour amener la paix et la sécurité dans la région. La France a lancé en 2013 une intervention militaire pour chasser les djihadistes du nord malien. L'opération Barkhane se poursuit dans la bande sahélo-saharienne et sera renforcée si ce projet de résolution est adopté aujourd'hui.
Au Mali même, le président Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, semble faire marche arrière sur son projet de révision de la Constitution. Le chef de l'État s'est dit prêt à retirer le projet, une première après les différentes manifestations de protestation contre cette initiative. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, nous en dit plus.
C'est lors de la présentation de la Charte pour la paix que le président Ibeka a donné son avis sur la révision constitutionnelle. Ibrahim Boubacar Keïta veut que la Constitution prenne en compte quelques aspects de l'accord issu du processus d'Alger.
Pour le confort de notre système démocratique et la conformité dans cet exercice de recherche de paix, nous conduit aujourd'hui à l'exercice de révision constitutionnelle pour créer des conditions nouvelles de vivre ensemble mieux, harmonieusement. Nul mandat à proroger ou à prolonger ou à multiplier par je ne sais combien n'ont pas pour faire un homme d'État plus fort, plus orgueilleux, plus vaniteux? Sûrement pas.
La grogne de la rue, les contestations autour du référendum, plus l'insécurité dans le pays, poussent le président malien à revoir sa copie.
Il y a certaines choses qui peuvent, avec intelligence, et dès lors que l'ensemble en aurait convenu, être différées dans le temps, mais jamais empêcher d'être. Ce serait remettre en cause l'essentiel. Et nul n'a le droit de remettre en cause l'essentiel.
Avant de prendre une décision finale, le président Ibeka a rencontré les présidents des institutions, les leaders religieux. Il va aussi échanger avec la classe politique, toutes tendances confondues. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Togo, libération de 7 des 9 étudiants détenus depuis la semaine dernière à la suite des manifestations sur le campus de l'université de Lomé. 2 sont toujours en prison et 2 autres ont été arrêtés hier à la Cour suprême de justice. Solange Diamounissa a joint Basile Amenou Vévé, secrétaire général de la Ligue togolaise des droits des étudiants.
Oui, actuellement, il y a 2 détenus parmi les 9 qui ont été arrêtés la fois dernière. Et encore hier, autour du palais de la justice de Lomé, il y a 2 étudiants qui sont arrêtés. Donc actuellement, ils sont au nombre de 4 à la prison civile de Lomé.
Vous venez de dire qu'il y a 2 étudiants qui ont été arrêtés hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont été arrêtés?
Autour de 13h, 14h déjà, les étudiants sont présents très massivement aux alentours du tribunal de Lomé pour assister donc au procès des camarades détenus. Et vu la mobilisation des étudiants, l'autorité a pensé très rapidement adopter la méthode de répression, ce qui va donc faire reculer les étudiants auprès des juges pour qu'ils puissent donc faire le jugement. C'est dans ces conditions que 2 camarades étudiants ont été détenus officiellement.
Qu'est-ce que vous revendiquez?
En fait, les revendications sont immenses, mais les plus importantes sont celles-ci. Nous voulons donc reconnaître à l'autorité de reprogrammer toutes les matières, tous les examens, tels que le système LMD exige. Nous avons aussi demandé l'augmentation des tranches à 20 000 francs par mois pour les allocataires et à 30 000 francs par mois pour les boursiers. Nous avons aussi demandé au président de l'université de supprimer cet ordre qui interdit aux étudiants d'étudier dans les amphis en dehors des heures du cours. Nous avons aussi demandé l'augmentation des heures de wifi parce que l'autorité nous a donné 8 heures par mois, ce qui reste très, très insuffisant. Nous avons également demandé la construction de nouveaux amphis, l'électrification des amphis et des agora, des salles de TD, de revoir l'état dans lequel les étudiants circulent dans les universités parce que les routes sont très très dégradées. Et puis nous avons également demandé la construction d'une bibliothèque au campus Nord.
Et si le gouvernement ne satisfait pas votre requête, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle sera la suite?
Notre première préoccupation, c'est de faire en sorte que le gouvernement puisse libérer les camarades étudiants qui sont en prison et en deuxième position, satisfaire à nos revendications. Au cas contraire, dès que les camarades ne sont pas libérés, et nous ne pouvons pas en décider sur les situations à venir, mais pour le moment, c'est la libération des camarades. Si les autorités ne libèrent pas les camarades détenus arbitrairement, le campus, tel que c'est déjà annoncé, nous avons annoncé le campus mort jusqu'à la libération des camarades, avant que le Nazareth vienne les autorités pour en discuter.
Basile Amenou Vévé, secrétaire général de la Ligue togolaise des droits des étudiants. L'ONU s'inquiète des réductions de financement prévues par les États-Unis dans leur contribution à son budget. Son secrétaire général Antonio Guterres compte venir demander personnellement au Congrès américain qu'il ne diminue pas les fonds alloués par Washington. Le point avec Morgan Guiriec.
Monsieur Guterres prévoit de venir à Washington la semaine prochaine pour faire valoir son point de vue aux élus américains qui tiennent les cordons de la bourse et ont le pouvoir d'amender tout projet de finances du président Donald Trump. Au siège de l'ONU à New York, Antonio Guterres a déclaré que le projet de budget présenté au Congrès créerait un problème insoluble pour la gestion des Nations Unies. Le département d'État a proposé de réduire de plus de 30% les budgets consacrés à la diplomatie et à l'aide internationale, y compris une baisse de 60% des fonds destinés aux opérations de maintien de la paix. Les États-Unis sont le plus gros contributeur des Nations Unies, avec plus de 5 milliards de dollars, c'est-à-dire 22% du budget de base, et près de 8 milliards de dollars qui représentent plus de 28% du budget des opérations de maintien de la paix dans le monde.
Et pour terminer, l'Égypte a entamé aujourd'hui la livraison d'un million de litres de carburant aux 2 millions d'habitants de l'enclave de Gaza qui ne disposent plus que de 2 heures de courant par jour depuis qu'Israël a réduit ses livraisons d'électricité à Gaza lundi. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.